chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette émission bi-hebdomadaire Le Monde au Féminin, diffusée le mardi et le samedi à 19h, temps universel. Nathalie Barge pour vous servir et nous sommes actuellement en direct sur la page Facebook de VO Afrique, essentiellement le mardi. Avec moi dans le studio, Esther Touré, ivoirienne, experte en communication, une passionnée de l'œuvre caritative. Merci beaucoup d'être avec nous, Esther.
Ok, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir.
Le plaisir est partagé. Okay. Alors, vous allez nous parler de votre passion, à cet engagement dans les actions caritatives, sachant que de nombreuses femmes africaines, et dans le reste du monde, se consacrent au service des plus démunis plusieurs heures par semaine, malgré leur temps de travail et la responsabilité familiale qui prennent, ma foi, beaucoup d'heures dans une journée. Alors, vous avez été chargée de communication dans deux rédactions abidjanaises. Vous avez été même chef de publicité à la RTI. Alors, le métier de communication, Esther, c'était volontaire ou par hasard ?
Alors, je peux dire que c'était volontaire. J'ai beaucoup aimé la communication et j'ai fini par la faire. J'en suis, si vous voulez, un peu passionnée aussi.
Oui. Donc,
Ma passion pour les actes caritatifs, je pense que c'est un peu personnel, ça ne date pas d'aujourd'hui, je peux le dire, parce que je suis partie depuis le lycée, je vais un peu plus loin pour vous dire.
Oui, bien sûr.
Au lycée, je prends l'exemple tout simple. Il arrivait certainement de voir certains de mes voisins partager mon livre, par exemple, en classe de 3e. Et je demandais, mais pourquoi tu n'as pas encore le livre? On est au milieu du mois, la rentrée est déjà passée. Non, mon père n'a pas encore pu acheter mes livres et tout. Et du coup, j'avais des idées. Je dis, mais est-ce que tu as tes anciens livres de l'année passée et tout? Ils me disent, oui, ça va et tout. Je les accompagne. Je ne sais pas s'il y en a un peu partout. En Afrique, il y a des librairies qu'on appelle librairies par terre. Et je les accompagne. Okay. On échange les anciens livres aux nouveaux livres. Je les amène à avoir les livres, suivre correctement. Un peu ça. Et par la suite, j'ai continué. Quand je suis quelque part, que je vois quelqu'un qui n'a pas quelque chose, je me bats pour donner. C'est vraiment un plaisir pour moi de donner ce que j'ai. Je n'en ai pas assez, mais c'est un plaisir de partager.
Qu'est-ce que ça vous fait justement de voir que certaines personnes, surtout des enfants, n'ont rien du tout?
Bon, je dis, comme je l'ai dit, bon, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas là où on doit naître, mais je pense que chacun de nous a le droit d'être là, je pense. Si, c'est un peu dans la foi. Si on est là, c'est que je peux le dire, Dieu a un plan pour nous. On ne naît pas pour vivre et mourir inutilement. Si on est là, c'est parce que on a un rôle à jouer, on a une mission, on a quelque chose à apporter aux autres. Et donc, ceux qui n'en ont pas, il faudrait déjà les amener à avoir confiance en eux, afin qu'ils puissent apporter le peu qu'ils ont. Parce que quand on n'en a pas, il y a un petit complexe. Ouais. On pense qu'on est inutile, surtout les jeunes gens. D'autres s'en vont jusqu'à se jeter dans la drogue, la boisson, le banditisme et tout ça. Donc c'est un peu ce qui m'a poussée à ça.
C'est dans la presse.
Esther, l'info que je vais apporter rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. 345 délinquants mineurs ont été resocialisés en Côte d'Ivoire, votre pays. Ces jeunes gens surnommés microbes ont bénéficié d'un programme spécial et ont été remis à leurs parents. Ils ont été formés à un métier, notamment la menuiserie, mécanique, électricité, couture, a déclaré la ministre de la Protection de l'Enfance, Marie Toukoné. Alors, ils sont âgés de 10 à 17 ans et ces enfants étaient membres de bandes organisées qui commettaient des agressions à l'arme blanche à Abidjan. Par ma voix, tous les enfants de ce centre demandent pardon à la nation ivoirienne pour le tort que nous lui avons causé dans un passé récent. Nous regrettons, a déclaré leur porte-parole. L'Allemagne et la Suisse arrivent en tête d'un classement des pays industrialisés en termes de progrès pour le bien-être des enfants, loin devant les États-Unis, n'est-ce pas, parmi les plus mal notés dans un récent rapport de l'UNICEF. Intéressant, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Le nombre de déplacés et de réfugiés dans le monde a atteint un nouveau record de 65 600 000 selon le HCR. Ce chiffre est inacceptable, estime à juste titre Filippo Grandi, haut commissaire pour les réfugiés. La Syrie, l'Irak et la Colombie ont représenté les principaux foyers des déplacements internes. La moitié des réfugiés enregistrés l'an dernier sont des enfants. Esther Touré, vous avez parlé de la foi, c'est ça qui vous intéresse, la foi. Vous avez la foi, n'est-ce pas? Et c'est ce qui vous, et c'est ce qui vous incite à donner, à partager.
Oh oui, je peux le dire. Et je reviens sur les informations que vous avez données tout à l'heure par rapport aux microbes qui ont pu être intégrés par la ministre, je ne sais pas, Marie et tout, vous avez dit. Vraiment, je tiens à lui tirer chapeau. Lui dit merci pour ce qu'elle a fait. C'est vraiment un rôle important qu'elle a joué en tant que mère déjà. Et je pense que ses enfants ont eu au départ un problème de canalisation. Mais avec ce qui vient de se passer...
On les a recadrés.
Oui, ils ont été recadrés et j'espère qu'ils vont continuer dans cette droite-là.
Alors au début, on avait un petit peu peur parce que la police avait organisé une sorte de mission très spéciale pour les arrêter, pour les interpeller. Et on s'inquiétait un petit peu de savoir ce qu'il allait advenir de ces jeunes. Et finalement, c'est la suite logique de cela. Voilà, ils ont été donc un petit peu remis dans le droit chemin, n'est-ce pas? Et il y en a 1000 en tout qui devraient être donc concernés par ce type de projet.
Ouais. Je pense que le projet a été bien finalisé parce que, quoi qu'on dise, l'avenir appartient à la jeunesse. Et après nous, c'est la future Côte d'Ivoire qui est là et l'idéal, ce ne serait pas de les tuer ou bien de les mettre en prison, mais c'est de les recadrer comme cela a été fait, vraiment. Je félicite encore le gouvernement et cette ministre.
Alors, la foi, Esther, vous aimez donner. Cette rencontre avec l'Église, ça s'est fait comment? Ça vient aussi d'un lointain passé ou c'est plutôt récent?
C'est pas très récent. Je peux dire que j'ai pas été forcée à devenir chrétienne parce que ma famille est musulmane à l'origine. Je fais un coucou à ma famille, mon père, ma mère et tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et tout. Ça a été un appel personnel de la Sainte Vierge Marie à Jésus. Je suis catholique et je suis fière de ma religion et tout. Et à l'église, je suis dans un groupe de prière, si vous voulez, pour les malades. Et donc, dans le groupe de prière pour les malades, on se rend compte que ce n'est pas seulement les malades physiques. Il y a des malades à tous les niveaux. Psychologiquement, il y en a qui sont morts, qui n'existent plus. Et moralement, à tous les niveaux, on meurt. Donc, ce qu'on fait, nous pratiquons l'écoute, nous écoutons les malades, les gens qui pensent qu'ils ont besoin d'être aimés, à un certain moment, se sentent rejetés de la société, rejetés même de tout le monde, se sentent inutiles. Et comme je le disais tantôt, on ne naît pas juste pour la forme. Si nous avons la grâce d'être là, c'est que nous avons un rôle à jouer, c'est que nous avons une mission. Et tous ceux qui se sentent hors de la société, c'est de les amener à accepter leur nouvelle situation. Je comprends mieux leur situation. Pourquoi? Parce que il m'est arrivé à ce moment de ma vie d'être dans le creux. Être dans le creux, c'est au moment où vous pensez que personne ne vous entend, personne ne vous voit.
C'est la grande solitude.
Voilà. Et vous vous sentez inutile. Et si vous n'êtes pas fort pour, à ce niveau-là, brouster, ressortir de là quelque chose, c'est-à-dire d'un rien, devenir par la suite un champion ou bien un modèle de la société, vous plongez. Et donc, c'est ce qui m'a motivé plus à me donner au niveau de l'église pour aider les gens qui pensent que qui n'ont vraiment pas de raison d'être là, ces personnes-là. Prier pour elles, les amener à savoir qu'elles ont quand même un rôle jusqu'à ce que chacune de ces personnes réalise quelque chose d'extraordinaire dans leur vie et finissent par donner le témoignage, je veux dire.
Alors justement, le témoignage, est-ce que vous avez des exemples de personnes que vous auriez suivies donc à l'église, au sein de l'église, à travers votre groupe de prière, et qui auraient vraiment remonté, à qui vous auriez vraiment remonté le moral et qui se seraient donc sorties de cette torpeur?
C'est. J'aimerais quand même rester dans l'anonymat. Bon, j'ai connu jeune dame vraiment formidable, camerounaise, je vais taire le nom, qui fumait à tout moment, qui s'adonnait à l'alcoolisme souvent, mm-hmm. et qui refusait même de prier, qui disait « Oh, Dieu a oublié le monde ». Vous voyez un peu ce genre de personne. Mm-hmm. Ça, c'est lorsqu'on a vraiment... On est
en bas, ouais.
Voilà. Mm-hmm. Et cette jeune dame, vraiment, j'ai souvent écouté, parce que les gens n'ont pas vraiment le temps pour ces personnes. On te traite tous de paresseux ou inutiles. Donc, mm-hmm. souvent écouté, je suis venue souvent à ces rendez-vous, malgré, vous savez, ici, en Amérique, on dit qu'on est tout en busy. Le temps...
Oui. C'est pas facile.
Yeah, c'est pas évident. Mais j'ai vraiment aidé cette jeune dame à savoir que Jésus est Seigneur et puis par la suite à travailler. Aujourd'hui, elle travaille dans un hôtel. Au début, elle était au casino. Aujourd'hui, je crois qu'elle fait le housekeeping. Elle est épanouie. Elle se sent revive. Elle se sent encore aimée et tout. Mm-hmm. Et donc, je ne rentrerai pas dans son passé, mais elle est formidable. Elle a même quatre enfants. Mm-hmm. Bon, on ne peut pas ramener tout le monde au bon sujet. Il y a un autre exemple, par exemple. Il y a une dame qui vit en Allemagne, qui a son fils de... adolescente de 17 ans, mm-hmm. qui s'est adonnée à la drogue, qui s'est abandonnée dans la rue, qu'on ramasse partout ici à Washington, mais que j'ai essayé à tout bout de champ. Quand sa mère est venue me voir, on a échangé au niveau de l'église et tout, mais elle est allée même payer des cours de, comment on va dire ça, de nursery, comme on appelle ça, ou le home health care, pour essayer de suivre les personnes âgées et tout. Il a eu les diplômes pendant mm-hmm. que sa mère était là. Mm-hmm. Et il allait au cours normalement. Mais quand sa mère est repartie en Allemagne, mm-hmm. il a encore replongé.
Donc il faut le récupérer alors.
Yeah, ouais. Il a encore replongé. Donc ce n'est pas dans tous les cas qu'on arrive quand même. Mais on ne s'abandonne pas.
Ouais. On n'abandonne jamais.
Yeah.
Parole de femme.
Micheline et Wang, Khadidia Doumbia, deux femmes en guerre contre les violences faites aux femmes. La chanteuse camerounaise et la professeure ivoirienne étaient membres d'un panel de présentation lors d'une rencontre sur ce sujet à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington. Je leur ai tendu le micro.
Il y a une conscience, il y a le fait que tout le monde se rend compte que le problème existe et en même temps que personne ne veut en parler, que les femmes ont peur d'en parler pour différentes raisons, en particulier des raisons économiques, et qu'il est temps quand même de crever l'abcès pour améliorer la vie quand même des femmes et des enfants surtout. Ça a un impact sur les enfants. On parle beaucoup des femmes, mais il y a un impact sur les enfants.
Micheline et Wang, vous-même, vous avez été victime de violences domestiques. Est-ce qu'il vous a été difficile d'en parler ?
Il a été très difficile d'en parler au début, mais à cause de mon expérience, je trouve maintenant que c'est le moment précis pour moi d'être ce porte-parole-là.
Et qu'est-ce que vous conseillez aux femmes qui sont dans le cas dans lequel vous étiez auparavant ?
De ne pas croire que ça va changer parce que ça ne changera pas. On a toujours l'espoir que la personne va comprendre. Et comme c'est la loi du silence, on ne dit rien en se disant ça va se tasser. Et la personne en face continue. Donc il faut parler rapidement.
Micheline,
que chacun comprenne ses droits mm-hmm. en tant que personne victime, que tu comprennes tes droits et que tu saches qu'ici aux États-Unis, pour ceux qui sont là, qu'il y a une possibilité d'être aidé.
Mm-hmm. La communauté africaine, ici à Washington, vous connaissez des femmes qui vivent encore ce type de situation ?
On le sait, elles n'en parlent pas, mais on le sait, donc bon, on ne juge pas, elles ont des raisons. Et puis chaque personne a son temps. Tant qu'on n'est pas prêt ou prête à en sortir, bon, on ne peut pas en sortir, même si les autres voient. Donc, il faut être prêt à commencer à parler et pour trouver l'aide dont on a besoin. On peut forcer personne à sortir de la situation, mais il faut être disponible, quoi.
Micheline.
Oui, j'en connais. À Washington, elles savent bien ce qu'elles vivent parce qu'on n'en parle pas. On veut rester mariée, on veut porter le titre de
Il y a aussi madame. Une dépendance économique
Non, celles que je connais, elles travaillent, elles ont de bons boulots, mais seulement elles veulent rester mariées. Et puis elles disent que c'est pour les enfants qu'elles restent là. Donc, madame, s'il vous plaît, ne restons plus là pour nos enfants parce que nous ne les protégeons pas.
Ah, c'est vrai.
Nous les détruisons tous les jours.
Oui, c'est exact. C'est-à-dire que lorsque tout le monde va comprendre que la violence domestique, en fait, est un crime, et un vrai crime, à ce moment-là, les gens vont se réveiller. Pour le moment, on trouve toujours des excuses. Bon, c'est culturel, c'est ceci, cela, tout en sachant que ce n'est pas vrai. Et la société est hypocrite aussi. Je vois en Afrique, quand les femmes se rendent compte qu'elles ne tiennent plus, elles viennent se plaindre à la famille. Pour faire bien, on les ramène dans le ménage. Mmh. Voilà, jusqu'à ce que parfois, il y en a qui meurent.
Voilà, c'était Micheline Ewang et Khadija Doumbia. Hein, c'est des militantes des droits humains, hein, de femmes formidables. Il faut dire qu'il y a une communauté africaine à Washington qui est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, toutes les dames qui sont là où vous êtes, hein, elles viennent de cette communauté. Donc, votre réaction, Esther, par rapport à cette interview.
Ok. Je salue au passage Khadija Doumbia. C'est une grande sœur.
Oui.
Nous le connaissons bien.
Mm-hmm.
Ce que je veux dire, c'est vraiment dommage que les femmes dans leur foyer ne puissent pas réagir quand elles sont opprimées ou bien quand elles vivent des sévices ou des situations de torture, des situations difficiles dans leur foyer. Parce que ce que je veux dire, pour moi, le plus important, ce n'est pas d'être mariée. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bien d'avoir un mari. Mais je le dis chaque fois, mieux vaut ne pas être accompagnée que d'être mal accompagnée. Ces femmes qui subissent ces violences dans leur foyer, qui continuent de subir jusqu'à trouver certaines, quelquefois même la mort, c'est dommage, je pourrais le dire. Parce que en fait, je pourrais dire qu'il n'y a pas de conclusion. Quand on vit avec un homme, c'est que, je reviens encore pour dire, il y a un appel, l'homme et la femme se complètent quelque part. C'est que vous complétez, que quand vous ne sentez pas quelque chose dans ce genre, c'est vraiment inutile de continuer à forcer de cohabiter. C'est vrai, il y a l'éducation des enfants, on pense à ce que vont devenir les enfants, mais comme l'a dit
et
tout à l'heure...
Et puis peut-être le on dit, la culture,
oh, oui,
parce que...
Kadi l'a dit, parce qu'il n'y a pas d'aide au niveau de la famille. Quand vous venez, vous essayez de crier un peu au secours.
Mais ça, ce n'est pas seulement en Afrique, il faut le savoir quand même.
En Afrique, c'est difficile. C'est encore, je peux dire, encore plus accentué au niveau de l'Afrique, parce que la plupart des mariages se font dans des familles, les familles se connaissent depuis de longues années, et si vous dites vous venez de rompre quelque chose de très important, je peux dire une alliance entre des familles, c'est trop compliqué au niveau de l'Afrique. Donc je penserais que les gens devraient voir un peu plus l'intérêt de leur fille et puis essayer de divorcer, pourquoi pas, pour vivre en paix, je pourrais dire.
Vous en avez rencontré à Washington des cas comme ça de femmes qui venaient peut-être un petit peu chercher une certaine forme de réconfort. Ou d'hommes, voire. Hein.
Bon, je peux dire, pas vraiment. J'ai discuté une fois avec une dame, mais dans son cas, elle était vraiment très, très émancipée. Elle me disait comme ça, bof, je suis là pour, parce que j'ai trois enfants avec mon mari, mais je suis là pour que le dernier puisse avoir 5 ans. Après 5 ans, je me casse. Donc déjà dans sa tête, il y avait un film, elle était convaincue que ça ne pouvait plus marcher, elle allait aller vivre dans un autre state. Et puis, voilà.
Mais vous, parfois, vous êtes croyante, vous avez la foi. Votre rôle, ce n'est pas aussi parfois d'essayer de raccommoder les gens, surtout dans le cas d'un couple, quand il y a des enfants. Et bon, peut-être que ce n'est pas la fin du monde non plus, parfois, quand on se dispute au sein d'un couple.
C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne se marie pas parce qu'on a vu un bel homme ou bien parce que, bon, on a vu... Une sœur se mariait à l'église, ça faisait beau, on a vu vraiment un très beau film de mariage, on souhaiterait avoir un autre mariage. En général, les gens se marient par arrangement. Oh, il vient d'avoir telle situation sociale, je m'accroche à lui, il me préfère et ça fait beau couple. C'est pas ça, c'est un appel, comme je le disais. Vous complétez l'autre, vous deux formez une seule chair. Je reviens encore là-dessus, ça fait un peu trop religieux, mais c'est la vérité. Si vous ne sentez pas l'homme avec lequel vous vivez, même son parfum vous dégoûte. Je vous le dis, même le supporter dans le lit, vous ne pouvez pas. Même le fait qu'il ronfle, vous ne pouvez pas supporter.
Est-ce que ça peut pas être un passage seulement? Parce que parfois, il arrive au sein de la famille qu'on ne supporte plus quelqu'un, mais parfois ça peut être des périodes comme ça. Puis après, ça revient, non?
Oui,
non,
ça c'est possible.
Oui,
c'est possible. Mais quand c'est vraiment votre âme sœur, c'est vraiment celui qui devait être là.
Enfin, ça c'est un autre sujet d'ailleurs. Esther. qu'est-ce que vous apportez exactement et qu'est-ce que cela vous procure, le fait de donner? Est-ce que c'est essentiel pour la conscience ou est-ce que ça va au-delà?
Ah bon, c'est pas seulement pour la conscience, je peux dire que ça va au-delà. Je me sens vraiment dégagée quand je viens de résoudre un problème, surtout pour quelqu'un d'autre. Je ne le fais pas pour attendre soit un merci, je ne le fais pas pour attendre des cadeaux. Je le fais parce que dans cette situation, maintenant, cette personne a besoin d'aide. Mm. Et quand j'arrive à décanter la situation d'une personne en détresse, je me sens vraiment très utile.
Vous avez le sentiment d'avoir accompli quelque chose.
Voilà, comme je l'ai dit, d'avoir accompli une mission.
Ouais.
C'est ce que je me dis, c'est un peu de l'altruisme, bon, on ne force pas.
Mm.
Si je ne pouvais.
Le Togo envisage depuis 3 ans la cantine scolaire gratuite. L'école primaire de Luanga, dans l'extrême nord du pays, figure parmi les centres scolaires de la nouvelle phase pilote. Notre correspondante Kayle Olson s'y est rendue. Voici son reportage.
Il est 11h30. C'est l'heure du repas à l'école primaire publique de Luanga, située à 17 km à l'est de la ville de Dapaon. En rang, les 654 élèves de cette école se dirigent vers les lave-mains. Une fois les mains propres, ils peuvent récupérer leur nourriture. Yao Apelete Amevo, élève en classe de CM2, nous donne un aperçu des menus au quotidien.
Lundi, on mange la pâte. Mardi, peut-être le riz. Et mercredi, le riz avec la haricot. Jeudi aussi, c'est comme ça la pâte. Vendredi, maca. La cantine, vous allez aujourd'hui.
Avec la cantine scolaire, Rafia Tchouboutessia, élève en classe de CM1, n'arrive plus en retard à l'école les après-midi.
Quand on sort à midi, je rentre à la maison et je prépare, je mange. Je ne venais pas vite, je venais en retard. Maintenant, quand je rentre à la maison, je ne prépare plus, je me douche et je rentre à l'école.
En 3 ans, le taux de réussite est passé de 50 à 80% et ce, grâce à la cantine scolaire, nous dit Ferdiana Mildi, directeur de l'EPP Luanga.
Nous avons pu enregistrer aujourd'hui 654 élèves comme effectifs, c'est grâce à la cantine scolaire. Avant, l'effectif était tellement maigre et de plus, les enfants mangent à leur faim, ils ne partent plus, ils apprennent leurs leçons et nous sommes arrivés à remonter le pourcentage de réussite.
Dans cet établissement scolaire où le port d'uniforme n'est pas obligatoire, tous les élèves ont droit au repas chaque midi. Kayle Olson, Luanga, VOA Afrique.
Et oui, est-ce que la jeunesse pouvait?
Esther Touré, pour terminer, j'ai une question importante à vous poser, vraiment. Est-ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous ce que vous faites pour les autres? Est-ce que vous en auriez besoin parfois? Dites-le franchement.
Ah ouais, je dirais pourquoi pas. Parce que si on le fait pour moi, ça sera pour les autres. Je sais pas si vous comprenez un peu. Quand on le fera pour moi...
Vous êtes comme tout le monde.
Oui, je suis comme tout le monde et je le ferai pour les autres.
Mm-hmm.
C'est-à-dire... qu'on me donne quelque chose, si quelqu'un en a besoin, je donnerai. C'est, nous sommes une chaîne, en fait.
Mm-hmm.
Et nous devons, ensemble, nous raccommoder pour avoir plus de force.
Et vous sentez que ça marche bien, ça, à Washington? Cette chaîne dont vous parlez?
Oui. Il y a de bonnes âmes. Il y a des gens qui y croient.
Merci beaucoup, Esther Touré. Un grand merci à Joselle Morissin, à la production. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.